OK, on va commencer notre 15e leçon. On va faire encore, on va terminer notre leçon qu'on avait commencée la semaine dernière sur la souveraineté de Dieu et la grâce irrésistible. On avait donné une définition, on va passer très rapidement ce qu'on avait déjà vu la semaine dernière, une définition simple de la grâce irrésistible. La grâce irrésistible, c'est la doctrine biblique qui soutient que Dieu, le Saint-Esprit, n'échoue jamais à amener au salut les pécheurs qu'il amène personnellement à Christ. Le Saint-Esprit applique inévitablement le salut à chaque pécheur qu'il a l'intention de sauver, et c'est son intention de sauver tous les élus. On avait mentionné aussi l'idée de l'appel extérieur pour la distinguer de l'appel intérieur du Saint-Esprit. L'appel extérieur, on a parlé la semaine dernière, c'est que vous allez mettre 30, 40, 50, 1000 personnes dans une salle, les gens vont entendre tout le même message qui vient des Écritures, par le même prédicateur, puis il y en a des fois 98, même 99% qui ne comprendront rien, pourtant ils ont entendu les mêmes mots que ceux qui vont entendre l'appel intérieur. L'appel intérieur du Saint-Esprit, ça fait en sorte que le Saint-Esprit permet que tes oreilles spirituelles soient ouvertes, que tes yeux spirituels soient ouverts, de manière à ce que le message que tu entends sur le fait que tu es un pécheur condamné, perdu, et tu t'en vas en enfer si tu ne te repens pas, et aussi entendre et voir la glorieuse personne de Jésus-Christ, parce que normalement, dans un message d'évangélisation, la personne de Christ est présentée. Qu'est-ce qui fait qu'on clique, qu'on allume? Qu'est-ce qu'on allume pas? Bien entendu, c'est la question de l'appel intérieur. Donc, c'est important de savoir la distinction. Donc, on avait regardé la semaine dernière un petit peu plus de détails sur tout ça. Et on va reviser très rapidement ce qu'on a vu la semaine dernière. On avait vu que le salut, c'est l'œuvre du Dieu trinitaire. Donc, Dieu, le Père, choisit, donc c'est l'élection. Et Dieu, le Fils, Jésus-Christ, la rédemption, vient faire la rédemption sur la terre. Et Dieu, le Saint-Esprit, lui, va régénérer ceux que le Père a choisis. Jésus-Christ a payé pour leurs péchés. Et ceux que le Saint-Esprit régénère, c'est les mêmes. Alors c'est une œuvre du Dieu trinitaire. À la fois Dieu le Père intervient, à la fois Dieu le Fils et à la fois Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, le deuxième point qu'on avait regardé, c'est que la régénération ou la nouvelle naissance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, il faut regarder deux choses quand on regarde la régénération. Il faut regarder qui en est l'auteur. L'auteur, selon les Écritures, bien entendu, c'est le Saint-Esprit. Mais il y a un instrument. Dieu se sert toujours d'un instrument à la fois pour sauver les gens. Donc, moi, souvent, j'avais lu dans un livre un exemple qui faisait mon affaire, parce que c'est certainement, ça correspond à la réalité. Disons que vous avez un saxophone. Vous voyez, c'est un instrument. Mais si personne souffle dedans, il ne se passe rien. Mais c'est la même chose. Le Saint-Esprit, comment ça se fait que, des fois, en lisant la parole, moi, je me rappelle de ma propre conversion. Comment ça se fait que, pendant des années, des gens m'ont donné des tracts, m'ont donné toutes sortes d'affaires, m'ont parlé du Seigneur, et ça me passait par une oreille, puis ça sortait par l'autre, je ne comprenais pas un mot de ce qu'ils me disaient, ou bien non, peut-être que je ne voulais pas le comprendre. C'est peut-être ça la vérité. Et il y a quelque part, quelqu'un me donne un petit Nouveau Testament, à un moment précis de ma vie, et tout d'un coup, le texte devient vivant, le texte devient intéressant, on me présente qui je suis, et là, je suis vraiment, quand on me présente qui je suis, puis tu t'en prends vraiment conscience, qui que t'es, là, t'es un pécheur, pourri, corrompu dans tous les sens du mot, dans tous les niveaux, et Dieu vient te régénérer, c'est un cadeau qu'il te fait, il te donne la nouvelle vie, la vie nouvelle, qui fait en sorte que maintenant, le texte des Écritures pour toi prend vie et il devient intéressant. Et on te présente la personne de Christ, et la personne de Christ, là, tu comprends que c'est ton sauveur et que tu as la vie éternelle par lui. C'est quelque chose de glorieux. Alors, quand on parle d'instrument, le Saint-Esprit, c'est l'auteur. C'est lui qui souffle. Et l'instrument que presque, je dirais toutes les conversions, ont lieu par l'intermédiaire à la fois du Saint-Esprit qui souffle Dans quoi? Dans sa parole. Alors, la parole, c'est comme l'instrument, mais si l'esprit ne souffle pas dessus, il ne se passe rien de ceux qui l'entendent. Alors, c'est bien important de réaliser cela. Alors, quand le Saint-Esprit régénère une personne ou lui donne la vie nouvelle, le pécheur reçoit une nouvelle nature. C'est la raison pour laquelle, quand on est... Tout à l'heure, Gervais disait que quand on est pécheur, avant de recevoir le salut, le malin, il fait ce qu'il veut avec nous, puis nous, on a la nature pécheresse, et alors on a juste le goût de pécher, sous toutes ses formes. Et quand on reçoit la nouvelle nature, bien là, le Saint-Esprit, si on le laisse vivre, si on le laisse contrôler nos vies, le Saint-Esprit arrive à dominer, on peut dominer notre vieille nature. Mais on n'a pas besoin de laisser la vieille nature prendre trop de terrain parce qu'elle reprend très rapidement. Alors, il faut laisser le Saint-Esprit nous contrôler de manière à ce que ça soit la nouvelle nature qui nous dirige et non pas notre ancienne nature. Donc, on reçoit à la nouvelle naissance, à la régénération, une nouvelle nature. Et là, on est rendu vivant parce que la parole nous dit qu'avant de recevoir la nouvelle nature, on était mort spirituellement. Donc, la communication avec Dieu était coupée. Il n'y avait rien qui se passait. Et ça prenait absolument cette régénération-là. Maintenant, la révélation intérieure pour nous faire comprendre que qui t'es et ce que le Saint-Esprit fait pour toi, bien entendu, ces choses-là, c'est les Écritures qui nous le révèlent. Et c'est intéressant de revenir dans certains versets pour nous faire comprendre encore davantage. Par exemple, dans Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 27. En ce temps-là, Jésus, prenant la parole, dit « Je te célèbre, ô mon Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits-enfants. Il est ainsi, ô mon Père, parce que telle a été ta bonne volonté. Toutes choses m'ont été accordées par mon Père, mais personne ne connaît le Fils que le Père, et personne ne connaît le Père que le Fils, et celui à qui le Fils l'aura voulu révéler. » Alors, quand Jésus-Christ révèle sa personne en toi. Alors, on avait vu différents versets là-dessus la semaine dernière. On était rendu à ce point-là. Là. Alors, on lit par exemple aussi dans Luc 8, chapitre 10. Et il répondit, « Il vous est donné de connaître les secrets du royaume de Dieu, mais il n'est pas parlé aux autres qu'en similitude, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Matthieu 16, versets 15 à 17, où lorsque Pierre se fait dire, quand il demande, le Seigneur demande, « Qui dites-vous que je suis? » Et là, Pierre, il dit une chose intelligente. Mais il pourrait être porté à penser que c'est lui qui a découvert ça. Là. Mais le Seigneur leur met sa place assez rapidement. Matthieu 16, versets 15 à 17, il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus répondit et dit, « Tu es bienheureux, Simon, fils de Jonas, car la chair et le sang ne te l'a pas révélé, mais mon Père, qui est aux cieux. » Il lui rappelle que s'il a compris le fait que Jésus-Christ était le Christ, c'est parce que Dieu le Père lui a révélé. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Là. Jean 6, verset 37. « Tout ce que mon Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui viendra à moi. » Versets 44 et 45 dans Jean 6 aussi. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne le tire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque donc a écouté le Père et a été instruit de ses intentions, vient à moi. » Et les versets 64 et 65, « Mais il y en a plusieurs entre vous qui ne croient point. » Car Jésus savait dès le commencement qui seraient ceux qui ne croiraient point et qui serait celui qui le trahirait. Il leur dit donc, « C'est pour cela que je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné de mon père. Très intéressant de constater ces points-là. Jean 10, versets 3 à 6. Le portier ouvre à celui-là et les brebis entendent sa voix et il appelle ses propres brebis par leur nom et il les mène dehors. Et quand il a mis ses brebis dehors, il va devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront point un étranger. Au contraire, elles le fuiront parce qu'elles ne connaissent point la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent point ce qu'il leur disait. Et dans le verset 16 du même chapitre, le Seigneur dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, et qu'il me faut aussi amener, et elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Mais vous ne croyez point, parce que vous n'êtes point de mes brebis, comme je vous l'ai dit. » Verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. » C'est ce qu'on disait tantôt, quand quelqu'un est assis dans une salle, il entend le message de l'Évangile, comment ça se fait? Il entend sa voix. C'est pas avec les oreilles externes, les oreilles physiques, ils l'entendent avec les oreilles spirituelles. Et ça, c'est le Seigneur qui l'a donné, la nouvelle vie, par le Saint-Esprit. Et dans le verset 28 et 29, c'est-à-dire, « Et moi, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne les peut ravir des mains de mon Père. » C'est tellement des versets qui sont rassurants, de savoir qu'il dit « Personne ne les ravira de ma main. » Ça veut-tu dire qu'il n'y a pas personne qui va s'asseoir? On aura plein de circonstances. Le démon et sa horde de démons vont tout faire pour vous détourner et vous faire tomber, vous faire abandonner Christ. Mais la Bible nous dit que nul ne nous... Il va nous ravir de sa main et la main de son Père. Alors ça, c'est quelque chose de très rassurant pour les chrétiens. Autre point qu'on veut regarder, c'est que la foi et la repentance sont les œuvres aussi du Saint-Esprit. La foi qui sauve et la repentance sont des cadeaux divins. La foi et la repentance sont amenées dans l'âme de l'élu par l'œuvre régénératrice du Saint-Esprit. L'œuvre régénératrice, c'est tout simplement que Dieu te donne la vie nouvelle alors que tu étais mort spirituellement. Acte 5, versets 30 et 31. « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez fait mourir le pendant au bois, et Dieu l'a élevé par sa puissance pour être prince et sauveur, afin de donner à Israël la repentance et la remission des péchés. » Qu'est-ce qu'il donne? C'est Dieu qui donne la repentance. Acte 11, 18. « Alors, ayant ouï ces choses, ils s'apaisèrent, et ils glorifièrent Dieu en disant, « Dieu a donc donné aussi aux gentils la repentance pour avoir la vie. » C'est qui ça, les gentils? C'est parce qu'on est fins, nous qui sommes fins, nous qui ne sommes pas fins. Les gentils, c'est les nations, tous ceux qui n'étaient pas des Israélites, tous ceux qui n'étaient pas des Juifs. Ça dit, « Dieu donc aura donné aussi aux gentils la repentance pour avoir la vie. » Donc, c'est Dieu qui donne la repentance. Acte 13, versets 46 à 48. Alors, Paul et Barnabas, s'étant enhardis, leur dirent, « C'est bien à vous, premièrement, qu'il fallait annoncer la parole de Dieu, mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les gentils. Car le Seigneur nous l'a ainsi commandé, disant, « Je t'ai établi pour être la lumière des gentils, afin que tu sois en salut jusqu'au bout de la terre. » Verset 48, « Et les gentils, entendant cela, s'en réjouissaient, et ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. » Acte 16, verset 14, ça va tout dans le même sens, dans des versets qui vont dans le sens que c'est Dieu qui donne à la fois la foi qui sauve et à la fois la repentance. Acte 16, verset 14, on connaît l'histoire de Lydie, la marchande de pourpre, mais on voit très bien dans le texte que c'est Dieu qui lui a ouvert le cœur. Ça dit, « Et une femme nommée Lydie, marchande de pourpre, qui était de la ville de Thyatire et qui servait Dieu, nous, oui. Et le Seigneur lui ouvrit le cœur afin qu'elle se rendît attentive aux choses que Paul disait. » Donc, à quelque part, c'est vraiment le fruit du Saint-Esprit, l'acte du Saint-Esprit de nous donner à la fois la foi en Jésus-Christ et à la fois la repentance. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9, ces versets-là, on les connaît tous, on les a entendus des multitudes de fois. « Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu, non point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Juste pour faire une petite application avec ce que Jackie me disait hier, elle me racontait que là-bas, les chrétiens qui sont arrivés au Tchad en premier, c'est les luthériens. Les luthériens ont mis beaucoup l'accent sur les œuvres. Ce n'est pas nécessairement mauvais en soi, mais en autant qu'ils ont compris qu'ils ont reçu la grâce avant. Elle raconte que il y avait un jeune homme dans le village dans lequel elle a été qui l'a enseigné chrétiennement et éventuellement il a grandi dans la foi et elle a tellement vu le potentiel de ce jeune homme-là qu'elle a payé avec sa propre argent qu'il aille au séminaire pour qu'il fasse une maîtrise en théologie. Alors, bien entendu, là, ses connaissances théologiques ont augmenté énormément. Mais ce qu'elle me raconte, ça m'a touché profondément. Elle me dit, Jérôme, à un moment donné, il a pris une bicyclette. Il restait à 60 km de elle. Il a pris sa bicyclette, est allé la rencontrer. Il est arrivé chez elle de nuit. Il a cogné à sa porte. Et elle se demandait c'est qui venait lui rendre visite dans la nuit comme ça. C'était lui. Et là, il dit, Jackie, faut que je te dise quelque chose. J'ai compris qu'est-ce que c'était la grâce. Faire 60 000 de bicyclette pour aller dire à une femme que tu admires parce qu'elle amenait les Écritures au peuple Kéra, j'ai compris ce que c'était la grâce. C'est touchant. Moi, ça me touche profondément parce qu'il avait compris un concept fondamental. Peut-être qu'il avait été instruit dans toutes sortes de choses concernant la parole de Dieu, mais il n'avait pas compris que tout cela, c'est une grâce de Dieu, un don, quelque chose qui t'a été donné par le Seigneur lui-même. Philippiens 1, 29, parce qu'il vous a été gratuitement donné dans ce qui a rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Alors, bien entendu, Jackie a souffert beaucoup pour le Seigneur, si vous regardez toute sa vie. Ce qu'elle nous raconte dans une heure, je suis sûr qu'elle ne nous a pas tout raconté. Là. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans une vie comme ça, à vouloir amener la parole. Et tout le côté d'adaptation à une nouvelle culture, c'est énorme. Là. Surtout à des températures pareilles, là, où elle dit que ça monte à 45 degrés. Là. 120 degrés Fahrenheit, c'est comme... Comment tu fais pour vivre là? Moi, ça me dépasse. Ça prend vraiment la grâce de Dieu. Il faut que quelqu'un ait été appelé par le Seigneur pour faire ces choses-là. Sinon... OK, l'appel 2 Timothée, chapitre 2, versets 25 et 26. « Enseignant avec douceur ceux qui ont un sentiment contraire, afin d'essayer... si quelque jour Dieu leur donnera la repentance. » Qui donne la repentance?
Dieu.
Pour connaître la vérité et afin qu'ils se réveillent pour sortir des pièges du diable par lequel ils ont été pris pour faire sa volonté. Et le dernier point qu'on va regarder, c'est l'appel spécial intérieur. C'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, le ministère de la prédication de l'Évangile, lui, adresse toujours un message général à toute l'auditoire en vue du salut. Les gens sont invités à croire au Seigneur, sont invités à se repentir. Et en plus de cet appel-là, ceux qui sont élus, le Saint-Esprit leur adresse un appel spécial intérieur, mais il l'adresse seulement aux élus. Alors, l'appel général extérieur peut et est souvent rejeté. Quelqu'un, n'importe qui a un petit peu d'expérience dans la vie chrétienne, sait que, puis qui a déjà assisté à des soirées d'évangélisation ou des journées d'évangélisation, sait que des fois, l'appel est rejeté. Les gens s'en retournent. Ils ne donnent pas crédit à ce qu'ils ont entendu. Mais l'appel spécial intérieur, lui, ne peut pas être rejeté parce qu'il résulte inévitablement et infailliblement en la conversion de ceux qui le reçoivent. Quand tu as reçu l'appel intérieur du Saint-Esprit, ça, pas pour rien qu'on le titre du message, c'est la grâce irrésistible. Quand Dieu te fait grâce, c'est irrésistible. On suit, comme on dit. Romains, chapitre 1, versets 6 et 7. « D'entre lesquels vous êtes, vous aussi, des appelés de Jésus-Christ, à tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés saints. À vous, grâce et paix de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Romains 8, 30. Ça, c'est un verset hyper connu, un verset peu compris, par exemple. En anglais, on l'appelle « the golden chain of salvation ». C'est comme s'il y a des anneaux. Un anneau s'attache à l'autre. « Golden », ça veut dire l'anneau d'or. Alors, c'est comme nous fait comprendre les liens qu'il y a entre l'appel, la justification et la glorification. C'est intéressant quand on lit ce verset-là et qu'on comprend pour la première fois que tous les verbes sont au passé. Je m'explique. Et ça dit, et ceux à l'égard desquels il a déterminé d'avance cela, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Si on comprend le sens, là, c'est que quand Dieu t'appelle et te justifie, mais il t'a déjà glorifié en Christ qui lui est rendu au ciel. Alors, quelque part, le passé, le temps du Verbe qui est au passé, nous révèle qu'on est déjà glorifié en Christ qui lui est déjà rendu au ciel. Et ce verset-là est d'une profondeur qu'on a beaucoup de difficulté à saisir et à se souvenir. C'est la raison pour laquelle, moi, je pense que le salut ne se perd pas. Et bien entendu, nous qui vont poser la question comment ça se fait qu'il y a de l'apostasie. Bien, de l'apostasie, c'est peut-être tout simplement ceux qui quittent et qui n'ont jamais reçu vraiment la grâce de Dieu. Ils quittent. Alors, c'est la position que je crois qui est biblique. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 1 et 2. Paul, appelé par la volonté de Dieu à être apôtre de Jésus-Christ, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, aux sanctifiés en Jésus-Christ, qui est appelé à être saint, avec tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Et on a le verset 9 aussi. « Et Dieu, par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, est fidèle. » Et après ça, on a les versets 27 à 31 du même chapitre. 1 Corinthiens, le premier chapitre de 1 Corinthiens, c'est un chapitre très riche concernant notre compréhension du salut. Moi, j'aime bien ces versets-là parce que je n'ai pas de difficulté à m'identifier. Mais quand on les lit les premières fois, on peut ruer des brancards et dire « Voyons donc, moi, je ne suis pas ça. » Là. Mais regardez bien ce que ça dit. « Mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde. » Donc, il est en train de nous dire que nous, on faisait partie des choses folles. « Pour rendre confuses les sages, et Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour rendre confuses les fortes. » Donc, il nous dit qu'on était fous et qu'on était faibles. Verset 28. Et Dieu a choisi les choses viles. Quand on parle d'une chose vile, c'est une chose qui n'a pas de valeur, qu'on méprise, qu'on jette comme une vieille guenille. Dieu a choisi les choses viles de ce monde et les mépriser, même celles qui ne sont point, pour abolir celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui vous a été fait de la part de Dieu sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie au Seigneur. Vraiment un passage intéressant pour se voir tel que l'on est. Pas tel que l'on se croit, mais tel que l'on est. Parce que c'est Dieu qui le dit. On est faible, on est vil, on est fou. Et le Seigneur est venu nous chercher malgré ça. C'est une grâce immense que le Seigneur nous a fait de nous sortir de ce monde-là et de faire de nous le contraire. On devient à ce moment-là des choses intelligentes, sages. Et on ne devient plus des choses viles, on devient précieux à ses yeux. Et on pourrait, c'est un passage, particulièrement les versets 30, il y aurait énormément de choses à dire concernant notre compréhension du salut à partir de ce verset-là. Galates, chapitre 1, versets 15 et 16. « Mais quand ça a été le bon plaisir de Dieu, qui m'avait choisi dès le ventre de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonçasse parmi les gentils, je ne commençais pas d'abord par prendre conseil de la chair et du sang. » Alors, bien entendu, on voit que Dieu avait appelé Paul dès le ventre de sa mère. Pourtant, Paul, il était un grand bout de temps, qui était loin de mener une vie idéale. Il a même tué des chrétiens. Mais dès le ventre de sa mère, Dieu l'avait choisi pour qu'il fasse un travail éventuellement, mais en son temps. Et dans le verset, il dit, « Lorsqu'il m'a appelé par sa grâce de révéler son Fils en moi. » Ça a pris du temps, là, mais qu'il révèle son Fils en lui. Parce qu'il croyait, il était pharisien, il était orgueilleux, il voulait contraindre les chrétiens à blasphémer, il les faisait emprisonner, il les faisait mépriser, tout, il n'y a rien qu'il n'a pas fait. Pas pour rien qu'après, quand Dieu dit que les chars dans la chair, il y en a plusieurs qui pensent que c'est Satan qui lui souffletait des reproches. « Ah oui, on sait bien, toi, le meurtre, tu es meurtrier des chrétiens. » Alors, il a voulu être libéré de ça, mais le Seigneur lui a dit, il lui a laissé ça, probablement parce que c'était nécessaire pour garder son humilité. « Ma grâce te suffit. » Alors, Deux Timothée, chapitre 1, verset 9, qui nous a sauvés et qui nous a appelés par une sainte vocation. Dans les Écritures, souvent, quand on lit le mot « vocation », ça ne veut pas dire, comme quand on dit de quelqu'un, « Ah, oh, il est allé, il a la vocation. » C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire l'appel. Le mot « voc », ça veut dire « appelé ». Qui nous a sauvés, qui nous a appelés par une sainte vocation, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant l'état éternel. Quel verset, quand on pense à ça. La grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels. On n'existait même pas. Puis il savait déjà la date de mon salut, même s'il sait que j'ai mis une vie désordonnée pendant des années, mais il savait qu'un jour, je comprendrais qui j'étais, que je comprendrais qui serait Christ, et que je voudrais vivre ma vie maintenant conformément à sa volonté qui est révélée dans les Saintes Écritures. Dieu savait tout ça d'avance. Et chacun d'entre nous, c'est ça qui est merveilleux. Déjà, on était placés en Jésus-Christ avant l'état éternel. Jude 1, verset 1. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés par l'Évangile, sanctifiés en Dieu le Père et conservés par Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi de même soyez saints dans toute votre conduite. Et quand on se compare Bien sûr, des fois, on peut penser qu'on mène une vie sainte, là, mais quand on commence parce que les Écritures nous disent que notre sanctification, ça devrait nous amener à ressembler de plus en plus et davantage chaque jour à la ressemblance à Jésus-Christ, on voit que la barre est très haute. Alors, quelque part, avant qu'on ressemble, on devrait déjà. S'il n'y a pas de signe dans la vie de quelqu'un qui ressemble déjà maintenant un peu plus à Jésus-Christ, peut-être qu'il n'a jamais eu de grâce dans sa vie. Alors, ça devrait être quelque chose qui progresse continuellement, qu'on s'en aille de plus en plus à la ressemblance de Jésus-Christ. 1 Pierre 2:9. Mais vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. C'est bien important de sentir l'appel de Dieu là-dedans. Si on est ce qu'on est aujourd'hui, c'est parce que Dieu a travaillé en nous, il nous a appelés. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Or, le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous rende accompli, vous affermisse, vous fortifie et vous rende inébranlable. Apocalypse, verset 17, verset 14. Ceux qui combattront contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et ceux qui sont avec lui sont du nombre des appelés, des élus et des fidèles. Et dernier point, l'application du salut aux élus. C'est l'œuvre, bien entendu, du Saint-Esprit. Dans trois facettes. Autrement dit, il faut regarder le salut dans ce qu'on pourrait appeler ses antécédents, avant qu'il nous arrive, autrement dit. Et au commencement de notre salut, il y a eu un commencement, dans l'espace et dans le temps, et aussi dans la continuation. Donc, le Saint-Esprit jouait un rôle dans le fait qu'on avait les antécédents du salut. Alors, les antécédents du salut, c'est les actes qui ont été établis dès l'éternité, c'est-à-dire avant même que l'élu ne soit à l'existence et avant même qu'il ne soit appliqué dans le temps et dans l'espace. Quand on lit les versets qui nous disent « Dès les temps éternels, on a été choisi en Jésus-Christ », donc c'est des antécédents du salut, c'est avant, ça s'est produit avant qu'on le reçoive sur la terre. Tout et chacun entre nous, ici, on a reçu un salut à quelque part dans l'espace. On était au Québec, on était à Mégantic, on était à Sherbrooke, on était peu importe. Là. Mais dans l'espace et dans le temps, le Seigneur s'est révélé à nous. Donc, à quelque part, le Saint-Esprit a participé dans les antécédents, en nous choisissant et en nous plaçant en Jésus-Christ, mais aussi dans le commencement. Donc, c'est le Saint-Esprit qui applique le salut à ceux qui sont choisis par Dieu le Père. Alors là-dedans, il y a des aspects qu'on pourrait dire subjectifs et ça comprend l'appel spécial interne. Quand on reçoit l'appel spécial interne, personne ne voit. Vous êtes assis dans la salle, vous entendez le salut, vous entendez les messages et il peut se passer quelque chose d'extraordinairement puissant en vous. C'est pour ça qu'on appelle ça subjectif parce qu'il y a juste le sujet, juste la personne qui le reçoit, qui en comprend toute la richesse et toute la profondeur. Et, bien entendu, la régénération aussi. La régénération, c'est qu'on a une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Les Écritures parlent de naître de nouveau. On a une nouvelle naissance, mais c'est tout simplement, c'est subjectif. Il n'y a que nous qui le voient, les autres autour ne le voient pas. Quand il y a des prédications, on ne peut pas dire « Ah, regardons ça, lui, d'après moi, il a été régénéré ». C'est subjectif, c'est vraiment quelque chose qui est interne, qui est ressenti uniquement par le sujet. Et bien entendu, il y a la conversion elle-même, qu'on a dit tantôt que c'était la foi et la repentance sont des dons du Saint-Esprit. Mais les aspects objectifs sont basés pourquoi on reçoit ces choses-là et que c'est efficace, c'est parce que c'est basé sur l'œuvre de Jésus-Christ. On a parlé de l'union avec Christ qui s'est faite dans l'éternité. On parle de la justification, ça je vous l'ai dit et redit à maintes et maintes fois. Pourquoi Dieu peut dire d'une personne d'entre nous qu'on est juste? Ça prendrait deux choses pour être juste. Il faut que tes péchés soient... qu'il y ait quelqu'un qui a subi le châtiment que tes péchés te méritent, et Christ le fait à ta place. Et en même temps, ça prenait la parfaite obéissance à la loi durant toute ta vie, dans tous les domaines de ta vie, sans avoir manqué une seule fois. Alors, quand on reçoit la régénération, on comprend ces choses-là. Mais si on ne les comprend pas tout de suite, Dieu permet que le Saint-Esprit va contribuer à nous enseigner dans l'histoire. Alors, quand on reçoit ces choses-là, on comprend que le salut, c'est pas notre œuvre. Voyez-vous, le gars, là, qui se faisait des années, qui était dans le luthérien, puis qui avait entendu un paquet d'informations sur tout ce qui concerne la Bible, Jésus-Christ, le péché et tout cela. Comment ça se fait qu'un jour, il s'est réveillé, puis il a compris que tout cela, là, c'est pas par les œuvres, c'est par la foi? En Jésus-Christ. Autrement dit, tes péchés, ce n'est pas toi qui vas les payer, pas parce que tu ne mériteras pas qu'ils soient payés, mais il faut qu'ils soient payés par une personne substitutive, donc par la personne de Christ. Et la même chose pour l'obéissance en Christ. Maintenant, il y a un autre aspect qu'il faut prendre conscience dans l'œuvre du Saint-Esprit, dans notre salut, c'est dans ce qu'on appelle la continuation. Donc, il y a les antécédents, il y a le début de ton salut, mais... si on est encore ici, moi dans mon cas, ça va faire bientôt 40 ans. Si je suis encore là, après 40 ans, c'est parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur a permis qui se passe dans ma vie. Puis ces choses-là, ils s'accomplissent par le ministère du Saint-Esprit. On va en nommer quelques-uns sans aller dans les détails. Il dit qu'il nous sanctifie. Donc, dès qu'il y a eu quelque œuvre de sanctification que ce soit dans nos vies, ça a été fait par le Saint-Esprit. Et notre collaboration, et aussi le Saint-Esprit nous enseigne. Donc, à quelque part, des fois, il enseigne par un livre, des fois, il enseigne par une prédication, des fois, il enseigne par des conversations qu'on a entre chrétiens, mais il enseigne ses enfants par différentes façons. Moi, j'avoue que j'ai été enseigné beaucoup par la Bible, beaucoup par le Saint-Esprit, beaucoup par les livres. Il ne faut pas mépriser les livres, parce que Dieu a révélé des choses... à des saints dans le passé, et que parfois, c'est des trésors à découvrir. On les découvre, on est émerveillé. Écoutez, Gervais, ce matin, je trouvais ça beau de voir qu'il est émerveillé par un livre qu'il est en train de lire. Bien, plus on lit, plus on est béni, plus on comprend. Alors, et le Saint-Esprit nous dit aussi dans les Écritures qu'il convainc de péché, qu'il de justice et de jugement, qu'il nous conduit dans la vérité. Autrement dit, au début de notre vie chrétienne, là, on en sait peu, mais normalement, après 38 ans, 30, 40 ans, on devrait en savoir un petit peu plus qu'au début. Là, parce que si on n'en sait pas plus qu'au début, ça révèle qu'on est soit paresseux ou quelque chose, ça ne marche pas. Là. Alors, il nous conduit dans la vérité, il glorifie Jésus-Christ. Chaque fois qu'on a une image ou une compréhension de la personne de Christ qui est plus élevée, qui est meilleure, c'est le Saint-Esprit qui permet qu'on découvre Jésus-Christ. Il glorifie. Dans les Écritures, il y a des versets qui nous disent qu'il glorifie Jésus-Christ. Il ne se glorifie pas lui-même. Il pourrait, parce qu'il est Dieu, mais il va glorifier Jésus-Christ. Et un autre appel, une autre chose qu'il fait, c'est qu'il appelle à servir. Quand dans le livre des Jacques, il vous dit, Paul, appelez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, il appelle des individus à faire des choses précises pour lui dans le ministère, comme Mme Hainaut. Elle a été appelée pour traduire la Bible, et à un moment donné, elle ne savait pas trop dans quel pays qu'elle était pour y aller. Puis à un moment donné, Dieu, par les circonstances, lui a montré que c'était au Tchad. Et encore là, encore par d'autres circonstances, un petit peu plus tard, lui a montré que non seulement c'était au Tchad, mais que c'était pour le peuple Kéra. Un petit peuple de rien, 50, 60 000, a donné sa vie au complet pour traduire la Bible à 60 000 personnes. C'est petit, là. Alors, il dirige aussi les hommes dans le service. Quand on est au service de Dieu, il va nous diriger, comme il a fait pour Jackie, il la dirige. Il l'emmène à l'école biblique. De l'école biblique, il l'emmène ici, il l'emmène là. Dieu dirige tranquillement. Et aussi, il intercède. Ça, il ne faut pas oublier le ministère d'intercession du Saint-Esprit. Tu sais, ça nous dit que on prie mal, nous. Il nous dit qu'on prie tellement mal que le Saint-Esprit, il va continuer nos prières, il va les améliorer. Autrement dit, il prend nos prières, puis lui, il a le don de dire à Dieu, voici ce qu'il a voulu dire, probablement. Donc, il intercède et les Écritures disent qu'il sonde tout et il opère toutes choses. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le ministère du Saint-Esprit. Autrement dit, il était présent avant qu'on soit sauvé, il était présent au moment de notre salut et il est présent tout le long de notre marche chrétienne dans toute notre vie. Alors, quelles sont les applications qu'on peut faire à partir de ce texte-là aujourd'hui? Je pense qu'il est d'une importance capitale de comprendre que ceux que le Père a choisis, ceux que le Fils a rachetés et ceux que le Saint-Esprit a sanctifiés sont les mêmes, donc les élus. Autre leçon qu'on a appris à partir de cela, c'est que l'homme est totalement passif dans son salut. L'élu reçoit le salut par la seule grâce souveraine de Dieu. Autre chose, c'est qu'une mauvaise compréhension des doctrines de la grâce amène à des fausses doctrines. Moi, à un moment donné, j'ai compris le principe que les doctrines sont toutes rattachées les unes aux autres. Si tu te trompes à une place, ça va avoir des répercussions ailleurs. Alors, si on se trompe dans la doctrine du salut, c'est sûr que ça va avoir des répercussions ailleurs. Ça va avoir des répercussions dans ta compréhension de qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Ça va avoir des répercussions sur ta compréhension de qu'est-ce que c'est le péché. Ça va avoir des implications aussi sur qu'est-ce que c'est les Écritures et sur qu'est-ce que c'est l'Église. On pourrait en rentrer beaucoup dans les détails de tout cela. Mais une saine doctrine du salut va nous éviter des pièges de confondre beaucoup de choses, dont faire la différence entre une personne qui est véritablement régénérée de celle qui ne l'est pas. Parce que les Écritures disent « Vous les reconnaîtrez par leurs fruits ». Si ça fait 40 ans que quelqu'un est chrétien, il n'y a pas de fruit dans sa vie. Le Seigneur est en train de te dire, tu vas le reconnaître pour savoir s'il est sauvé ou non par les fruits qu'il va porter dans sa vie. Tu vas avoir aussi, je dirais, une meilleure compréhension dans ce que c'est la véritable adoration authentique de celle de l'amusement du peuple. Je dirais qu'aux États-Unis, actuellement en Europe, je ne sais pas, mais aux États-Unis, il y a beaucoup d'églises qui sont glissées dans ce qu'on pourrait appeler l'entertainment. Alors, ils sont là pendant une heure et demie, des fois deux heures, et c'est beaucoup plus un show que de l'adoration. Ça, c'est très dangereux. Alors, quand si jamais on se trouve dans un milieu où le culte, c'est plus un show qu'une adoration au Seigneur, ben, je pense qu'il est temps que toi, tu prennes la décision de sortir de là. Et ça l'amène aussi que tu n'aies pas de confusion entre l'évangélisation biblique et la proclamation du salut universel. Vous, tout à l'heure, Gervais parlait de qui s'en vient là, dans le monde, ce qu'on appelle, sont en train de former la grande religion mondiale. Et je pourrais vous montrer des documents là, que j'ai chez moi, là, qui sont en train de dire de toutes les religions du monde se sont réunies pour dire là, maintenant, nous, c'est paix et sûreté. Ça vous rappelle-tu un verset, ça? Lorsqu'ils diront paix et sûreté ou paix et sécurité, c'est là qu'il va arriver le jugement. Et c'est ça qu'on se voit sous nos yeux, là. Ça fait deux ans que j'ai lu ça, là. Ça s'est produit en Corée, à Séoul, une grosse assemblée où il y avait toutes les religions du monde possibles, imaginables. Ils sont en train de se mettre ensemble et dire il nous faut construire une religion mondiale qui va amener la paix sur la terre. Le but est noble, mais ce n'est pas de même que le Seigneur dit que ça marche. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ, acte 4, 12. Il faut que tu aies le courage de le dire, là, quand tout le monde dit, ben nous, on va amener la paix sur la terre. On est-tu pour dire qu'on n'est pas pour la paix sur la terre? On est pour la paix sur la terre, mais on ne peut pas dire que le salut vient par n'importe quel moyen ou n'importe quelle religion, ce qu'ils sont en train de faire. Alors, il faut se préparer à ça parce que ce ne sera pas long qu'on va sentir les effets de ça dans les assemblées locales, je vous le dis. Et ensuite, ça va nous éviter la confusion entre ce qu'on appelle l'unité réelle des chrétiens et celle qu'aujourd'hui, on appelle l'écuménisme, qui peut être un écuménisme saint, S-A-I-N, et saint, S-A-I-N-T, Béquipet est un écuménisme aussi qu'on veut la paix et on veut à tout prix, même au prix de la vérité. C'est ça qui est en train de se passer là. C'est Séoul, c'est ça. Quand tu es rendu que tu mets tout le monde, toutes les religions du monde sur le même pied, puis tu dis que tous ces gens-là vont t'amener à Dieu, ben là, tu te diriges vers une méchante erreur. Et si les chrétiens n'ont pas la force de résister à ça, à quelque part, on va glisser. Alors, il faut être prêt. Il faut s'attacher aux Écritures, un peu comme le peuple Kéra, hier, on a vu qu'il était de même. Puis, on voyait qu'il l'avait à cœur. Bien, nous aussi, il faut qu'on l'ait à cœur. Il ne faut pas que ça soit juste une lecture de 2 minutes par jour, quand il y en a. Parce que des fois, il y a des journées complètes, ou même des semaines complètes, qu'on peut passer sans lire les Écritures. Mais ça, c'est, je vous le dis, c'est dangereux. C'est un peu comme, je n'ai pas besoin de vous dire, aujourd'hui, il faut vous manger, hein? À l'arrivée à midi, vous allez manger, à l'arrivée à soir, vous allez manger. Bien, la parole dit que c'est de la nourriture. Si on ne se nourrit pas spirituellement, ce qui va nous arriver, on va s'affaiblir. Et c'est dangereux de négliger les Saintes Écritures. Alors, on va terminer en disant, implorons le Seigneur de nous fortifier et de nous donner de persévérer sur le chemin étroit et resserré jusqu'à son retour. Mais tout cela par sa grâce et pour sa gloire. Amen.